Bonjour Sylvie Brodeloup.
Bonjour.
On va tout de suite faire tomber deux mythes avec vous. Le premier mythe, c'est celui selon lequel l'Afrique serait une terre d'émigration, en tout cas plus que le reste du monde.
Oui, d'abord, contrairement aux idées reçues, l'immigration n'est pas un phénomène massif, hein, puisque la migration internationale ne concerne que 3,2% de la population mondiale. Et quant aux Africains, eh bien, ils ne sont pas plus grands voyageurs que les autres, voire peut-être moins que les autres, puisque selon les sources des Nations Unies, notamment en 2015, eh bien, ces migrants ouest-africains ne représentaient que 2,9% de l'ensemble de la population ouest-africaine.
Donc c'est vraiment un phénomène minoritaire.
Oui, c'est un phénomène minoritaire.
Quand les populations africaines émigrent, elles ne vont pas vers l'Europe, elles vont plutôt vers d'autres pays du continent.
Oui, tout à fait. Contrairement à ce mythe tenace qui est répandu, eh bien, les routes de la migration africaine mènent rarement en Europe. Plus des deux tiers, voire les trois quarts des Africains restent à l'intérieur du continent.
Est-ce qu'à l'intérieur du continent africain, certains pays attirent plus particulièrement les migrants que d'autres ?
Oui, on parle de 5 pôles récepteurs. D'abord le Nigeria et la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Le premier avec ses champs de pétrole et ses mines de pierres semi-précieuses. Le second avec ses plantations de café et de cacao attire donc une population africaine importante. Troisième pôle, cette fois-ci en Afrique centrale, le Gabon. Pays beaucoup moins peuplé, avec ses chantiers de construction, mais aussi ses hydrocarbures, à l'instar de la Libye, en Afrique du Nord, qui a continué aussi à attirer des populations des pays voisins, tout cela en dépit des exactions et des expulsions répétées. Et puis, dernier pôle récepteur, l'Afrique du Sud, dont les mines d'or et de diamants continuent d'attirer aussi une multitude d'ouvriers, zimbabwéens, mozambicains. Et puis, depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud a aussi accueilli un nombre croissant de migrants ouest-africains ou encore de RDC, la République démocratique du Congo, qui travaillent, eux, plutôt dans les zones urbaines, dans le commerce, l'artisanat.
Alors, ce que vous expliquez dans votre texte, Sylvie Brodeloup, c'est que jusque dans les années 80, on était globalement en Afrique dans un régime qu'on pourrait décrire comme un régime de laisser-faire, avec une circulation assez libre des personnes, mais que dans les années 80, justement, se sont mises en place progressivement des politiques de contrôle plus restrictives.
Oui, il se trouve que la crise économique mondiale a aussi contribué à redessiner la carte des mouvements intra-africains. Et les textes qui, pendant longtemps, n'avaient pas été appliqués ont fini par l'être. Des cartes de séjour, des visas d'entrée, de sortie ont été instaurés. Et les tarifs de ces cartes, de ces visas ont augmenté aussi notablement. L'accueil des étrangers au travail salarié a également été restreint. Là, je renvoie à la politique généralisée qu'on a appelée d'ivoirisation, de zaïnirisation, de gabonisation des cadres et puis ensuite du commerce. Enfin bref, ces mesures à partir des années 80 dans les pays d'accueil ont eu donc pour effet de plonger les communautés étrangères dans une vulnérabilité accrue, incitant donc certains d'entre eux à reprendre la route.
Alors ce qui est particulièrement intéressant dans le chapitre que vous avez rédigé, Sylvie Brodeloup, c'est que vous revenez sur la façon dont se déroule concrètement cette migration pour les migrants africains et vous expliquez notamment que la migration par étapes, c'est un scénario qui est fréquent pour les migrants africains. Comment est-ce que ça se passe concrètement, cette migration par étapes ?
Il se trouve que l'Afrique devient autant une terre d'accueil qu'une terre d'accueil. Les conditions d'hospitalité n'étant plus réunies, eh bien, les migrants ne peuvent plus non plus tabler sur les solidarités traditionnelles, hein, sur la famille, sur les compatriotes. Donc, même si ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres, hein, le passage des frontières a un coût important et les économies faites avant de partir, eh bien, sont vite liquidées. Les migrants sont donc conduits à travailler en chemin pour se renflouer. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que leur voyage s'étale dans le temps et se mesure effectivement dorénavant en années. Donc non seulement le nombre d'étapes se multiplie, mais l'attente de ces étapes s'éternise aussi. Une collègue, Claire Escoffier, a montré que ça faisait en moyenne 19 mois que des migrants subsahariens qu'elle avait rencontrés au Maroc avaient quitté leur pays d'origine. Un autre collègue, qui s'appelle Mohamed Saïd Muzet, dans une recherche conduite en Algérie, a montré que si dans les années 2000, les temps passés dans les lieux de transit ne dépassaient pas les 6 mois, en 2006, ils y restaient 2 années et plus. Et puis, moi-même, en Libye, j'ai rencontré 2 migrants camerounais qui ne se souvenaient plus depuis combien d'années ils s'étaient arrêtés à Séba, qui se trouve aux portes du Grand Désert. Ils se disaient en panne. Et en fait, ils avaient perdu la notion du temps, comme si leur horloge interne s'était détraquée. Et c'est seulement en essayant de faire coïncider le moment de leur arrivée dans la ville avec des événements importants qui se déroulaient dans le monde qu'ils ont réalisé que leur séjour en Libye pouvait se mesurer objectivement en années.
Merci à vous, Sylvie Bredeloup.